Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard.
Bonsoir André.
C'est Attaque.
Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois.
Et que dit-on chez nous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Nous commencerons par une séquence d'actualité, ensuite Louis-Claude nous livrera sa chronique du mois, accompagnée de Jeanne-Marie.
Puis nous recevrons Sébastien Martineau, secrétaire général de l'Union départementale CGT, avec qui nous parlerons de la réforme de l'assurance chômage.
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a rendu la première partie de son nouveau rapport. Nous en ferons une présentation et nous terminerons par l'agenda militant du mois.
Alors André, qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité ce mois-ci ?
Eh bien, Jeanne-Marie, en fait, l'ensemble de notre émission va être centré sur des thèmes d'actualité. Nous allons aborder avec notre invité la question de la réforme de l'assurance chômage. Et comme on vient de le dire, la COP26 s'ouvrant à la fin de la semaine prochaine, nous parlerons du réchauffement climatique à travers la présentation de la dernière publication du GIEC. Localement, quand même, une action est engagée depuis un mois environ contre le projet d'implantation de deux bassines, c'est-à-dire de réservoirs d'eau, permettant à l'agriculteur qui les possède d'irriguer ses cultures en été quand des restrictions d'arrosage sont décrétées. Il s'agit en fait de l'accaparement d'une ressource commune, l'eau, par un agriculteur, à son usage et à son profit, pour, de surcroît, pérenniser un mode de production agricole polluant, destructeur de la biodiversité et finalement sans avenir à long terme. Et maintenant, Jeanne-Marie et Louis-Claude, c'est à vous.
Jeanne-Marie, il fallait une question d'ailleurs que je vais te poser pour commencer. Est-ce que tu ne trouves pas que nous sommes dans une période quelque peu paradoxale ? À 6 mois d'élection présidentielle, les médias ne cessent de nous parler des pas encore candidats, Zemmour, Hidalgo, Pécresse, Bertrand, Macron, etc. Puis sondent les éventuels duels du deuxième tour entre ces non-candidats, évidemment supposés vainqueurs du premier tour, et ne nous disent quasiment rien des déjà candidats, Le Pen, Mélenchon, Roussel, Poutou.
Oh bah oui, mais quant aux instituts de sondage qui travaillent sur commande des médias en question, ils ne cessent de dire que l'image qu'ils renvoient n'est qu'une photo instantanée de l'opinion, ce qui ne saurait être interprété comme un pronostic. Comme s'ils ne savaient pas que ces discours s'apparentent de la publicité et que certains candidats se vendent en pack. Achetez mon livre, je vous offre un candidat.
Avec petit ruban. Le non-candidat Macron, le plus célèbre donc de tous ces non-candidats, vient opportunément de se rappeler qu'il voulait découvrir la France et la réformer, et rencontrer les Français afin de les réconcilier avec la politique. C'est pourquoi, en dehors, bien entendu, de toute préoccupation électorale et aux frais de la République, il parcourt l'Hexagone, se préoccupe de rénover Marseille et la justice, les relations de la France avec l'Algérie et le Mali, voire même avec l'Afrique tout entière. Et il se mêle de commémorer les assassinats de Samuel Paty et de centaines d'Algériens, de se rendre à Poitiers en digne successeur de Charles Martel. Et j'en passe.
Ah oui, grand inaugurateur s'il en fut. Et il fait des émules dans les rangs pléthoriques du gouvernement le plus nombreux et le mieux payé de la Ve République. Tu me disais que le secrétaire d'État au tourisme est venu, accompagné d'un de ses collègues, mi-septembre, inaugurer au col du Lautaret quelques travaux sur un sentier, ouvert d'ailleurs depuis des décennies, et que les randonneurs utilisent par dizaines chaque été.
Absolument. Et ces travaux sont donc totalement inutiles à cette époque de l'année, puisque le sentier va être traversé cet hiver et au printemps par des avalanches de neige et de rochers. D'ailleurs, les premières neiges ont suivi de quelques jours seulement celui de la manifestation inaugurale.
Ah oui. Et c'est aussi un grand commémorateur qui doit faire se retourner Maurice Papon, d'ailleurs, dans sa tombe. L'ancien maire de Saint-Amand ne devait pas imaginer qu'un jour son successeur à la préfecture de Paris regretterait que le massacre du 21 septembre 1961 ait eu lieu. Surtout après avoir affirmé en 2021 que la violence policière est légitime. Ce qui m'incite à penser que ni le président ni son préfet de Paris n'iront se recueillir sur les tombes de Rémi Fraisse, Adama Traoré, Cédric Chouviat, Steve, etc., etc.
Oui, absolument. Et puis alors, une autre qualité de ce président, candidat, pas candidat, c'est celle de grand distributeur. Il nous répète à l'envi qu'il n'y a pas d'argent magique à chacune de ses généreuses visites, durant lesquelles il distribue des millions et mouille le maillot. Et alors, à propos de mouiller le maillot, encore plus sportif que Sarkozy, il a marqué un pénalty lors d'un match de foot destiné à collecter des fonds pour l'hôpital public. Ça, il fallait oser le faire, fermer des lits et ouvrir une collecte pour l'hôpital.
Ah oui, ah mais au moins cette fois, on ne pourra pas accuser Bernard Tapie d'avoir acheté le match ou payé le fautif. Hein. Il est décédé récemment et la presse a surtout retenu les qualités de battleur, le bagou, les coups de gueule, le destin hors du commun de l'homme. Ah mais toutefois, bien peu de chroniqueurs ont rappelé que Nanar avait eu affaire à la justice, qu'il avait goûté à la prison et que sans la grave maladie qui l'a emporté, il aurait sans doute dû rendre des comptes et beaucoup d'argent à l'État.
Oui, oui, je crois. Tiens, je me souviens d'avoir été très ému par la beauté du masque mortuaire de Toutankhamon, masque trouvé dans son tombeau, et que j'ai eu la chance d'admirer au musée historique du Caire. Et alors, tu te demandes peut-être quel rapport a cette remarque avec ce que tu viens de dire. Eh bien, ce que je me dis, c'est que des personnages célèbres devraient toujours partir de l'au-delà avec une partie de leur patrimoine de grande valeur. Ainsi, Bernard Tapie part avec 500 millions d'euros qu'il devait à la France. Alors peut-être que dans 40 siècles, nos successeurs sur la planète, s'il a résisté au réchauffement, ouvriront sa tombe et trouveront un chèque de 500 millions d'euros.
Ah oui, oui, ce serait pas mal. Ah oui, comme un dernier coup de bluff, quoi. Et ils mettront ce chèque dans une vitrine blindée du musée du XXIe siècle. Nos descendants seront-ils émus par cette découverte, comme tu dis, l'avoir été par la beauté et la richesse du masque du jeune pharaon ?
Oh, n'en doutons pas. Alors je voudrais faire même une deuxième proposition, baptisée « Cellule Bernard Tapie », la cellule de la prison de la santé dans laquelle il a séjourné pendant quelque temps. Elle serait réservée aux VIP, tels des ministres, des présidents de la République ou leurs conseillers, des sportifs de renom, des patrons, des évêques...
Oui, enfin, en bref, des personnages d'importance qui auraient pratiqué l'évasion fiscale, fraudé quelques dizaines de millions d'euros comme de vulgaires chômeurs...
Oui, ou auraient abusé de leur pouvoir ou des femmes de leur entourage...
Ou auraient masqué des richesses ou des crimes...
Auraient planqué des comptes offshore...
Auraient utilisé des emplois payés par une collectivité pour leur usage personnel... Ou celui de leur parti.
Oui, enfin, il est vrai que tous ces exemples et ces situations sont purement hypothétiques et jamais ne se produisent en France. Et il serait dommage d'ailleurs de garder une cellule vide quand nos prisons manquent de place, parce qu'il faut bien héberger, bien si l'on peut dire, de vrais délinquants que de vrais juges non idéologiques ont condamnés après de vrais procès en comparution immédiate, donc tenus dans des délais raisonnables après la commission et la reconnaissance des faits.
Oui, oui. Heureusement qu'en France, nous sommes dans un état de droit. Non, attends, pardon. Je voulais dire dans un état de droit.
Oui, ben, merci Jeanne-Marie. Merci Louis-Claude.
Dans les comptes d'apothicaire, 20 ans, c'est une somme de bonheur. Mais 20 ans sont morts à la guerre, de l'autre côté du champ d'honneur. Si je connais un temps de chien, certes, c'est bien le temps de mes 20 ans. Cependant, je pleure sa perte. Il est mort, c'était le bon temps. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Dans ta petite mémoire de lièvre, Bécassine, il t'est souvenu de notre amour du coin des lèvres. Amour nul et non avenu, amour d'un sou qui n'allait certes guère plus loin que le bout de son lit. Cependant nous pleurons sa perte. Il est mort, il est embelli. Il est toujours joli le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. J'ai mis ma tenue la plus sombre et mon masque d'enterrement pour conduire au royaume des ombres un paquet de vieux ossements. La terre n'a jamais produit, certes, de canailles plus consommées. Cependant, nous pleurons sa perte. Elle est morte, elle est embaumée. Toujours joli le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types.
Vous écoutez Attaque 18, leur émission mensuelle sur Radio Résonance 96.9.
Oui, maintenant nous allons écouter l'entretien que nous a accordé Sébastien Martineau de la CGT.
Eh bien, Sébastien Martineau, tu es secrétaire général de l'Union départementale CGT. Et nous allons aujourd'hui parler ensemble de la réforme, enfin réforme entre guillemets, de l'assurance chômage. Alors d'abord, c'est une réforme qui a l'air assez favorable au patronat, non ?
Alors c'est une réforme qui est absolument voulue par le patronat, construite par le patronat, qui fait suite à plusieurs déjà contre-réformes qui ont cassé les droits des chômeurs, mais celle-là est particulièrement grave. D'ailleurs, toutes les organisations syndicales sont contre.
Hein. Oui, toutes, absolument toutes, c'est rare.
C'est plutôt rare.
Même les réformistes, entre guillemets.
C'est ça, mais c'est... Voilà, si on regarde un petit peu, ou si on lit un petit peu ce qu'en dit le patronat, c'est la réforme des réformes qui est indispensable. Alors en plus de ça, si on prend la période actuelle, là c'est la période avec ce qui est dit sur les 300 voire 400 000 emplois non pourvus, le patronat estime que c'est du pain béni pour lui, puisque avec cette réforme, on va pouvoir remettre des chômeurs au travail dans n'importe quelle condition, puisque il y a plusieurs aspects dans cette réforme. Alors il y a déjà le fait de pouvoir accéder aux indemnités chômage. Il fallait travailler 4 mois, il faudra travailler 6 mois. Donc ça va être beaucoup plus long pour avoir accès aux indemnités.
Et surtout que les indemnités sont proportionnelles au nombre de mois travaillés.
C'est ça. Donc au salaire en activité. Donc on a cette partie travailler plus. On a la partie indemnité qui diminue. Alors qui diminue déjà, puisqu'on peut travailler de plus, il y aura sûrement des parties de salaire qui seront beaucoup moindres. Donc naturellement, ça diminuera les indemnités. Et en plus de ça, ça a été dit par l'UNEDIC, hein, c'est pas la CGT qui le dit en tant que tel. Les indemnités vont diminuer entre une moyenne de 22% jusqu'à 43% pour certains. Donc vous imaginez bien, déjà, avec un salaire diminué, parce que faut aussi tordre le cou à ce qui est dit partout, les chômeurs n'ont pas leur salaire complet, hein, c'est pas vrai. Mais donc ce qui va se passer, c'est que là on va enlever des sommes conséquentes, et donc le reste à vivre va être beaucoup plus faible. Donc nous, on a tendance à dire que cette réforme va ajouter de la pauvreté à la précarité. Donc, et c'est valable pour les chômeurs actuels, comme pour les, malheureusement, nouveaux chômeurs qui vont bénéficier.
Oui, parce qu'il faut peut-être quand même rappeler un chiffre. Il y a 400 000 emplois non pourvus, même si probablement certains d'entre eux sont pourvus par des travailleurs au noir qui passent sous les radars. Mais il y a quand même 4 millions de chômeurs, plus d'autres, enfin ça dépend comment on calcule, mais enfin ça va entre 4 et 6 millions, je crois.
Ouais, et on a 10 millions de travailleurs pauvres. Donc, c'est chaud.
Sur une population active de 24 millions, à peu près.
Ça fait quand même beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Ce qui va se passer avec cette réforme, c'est que les chômeurs n'auront plus la possibilité de rester dans ce qu'ils savent faire, sur lesquels ils sont qualifiés, sur lesquels ils ont un diplôme, puisque il y a un contrat, voilà, qui est passé entre le chômeur et Pôle emploi. Alors, qui dit contrat dit il faut le respecter. Et pour respecter ce contrat, le chômeur devra accepter n'importe quel boulot, c'est très générique ce que je dis, n'importe quel travail à n'importe quel salaire, n'importe où. Et donc, avec le risque de, s'il refuse, il est radié. Donc ça existe quand même déjà un peu ça, mais là on va amplifier le fait que les qualifications, les certifications, les diplômes ne soient plus reconnus, mais simplement les compétences.
Alors, on parle donc de cette différence entre qualification et compétence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sur le marché du travail, il y avait des compétences, des qualifications reconnues par des diplômes, et qui donnait le droit à un certain nombre de salaires ou, quand on était chômeur, à un certain niveau d'indemnité. C'est ce système qu'on est en train de démolir, c'est-à-dire en obligeant les gens à faire n'importe quel travail, même s'il n'est pas du tout dans leur qualification professionnelle.
Alors, on sort complètement du diplôme, du savoir-faire, de la qualification. Alors la qualification, pourquoi c'est important et pourquoi la CGT insiste beaucoup là-dessus? La qualification, c'est le salaire. La compétence, vous êtes capable de faire tel ou tel... Par exemple, moi, je suis j'imagine, hein, très bon à faire du pain chez moi. Par contre, je ne suis pas un bon boulanger parce qu'en plus de ça, je n'ai pas été formé pour ça. Mais je suis bon à faire du pain chez moi. Pour autant, si on me mettait en boulangerie, on verrait que cet aspect-là, je suis bon à faire du pain, je ne suis pas qualifié, j'ai pas de CAP, j'ai pas de BEP, j'ai pas ces diplômes-là, et donc je ne correspond pas à la grille de salaire de la convention collective. C'est ça qui est important. La compétence ne fait pas le salaire, c'est la qualification de l'individu, et non pas du poste, parce que là aussi, certains voudraient que le poste soit qualifié comme dans la métallurgie, c'est ce qu'ils veulent faire. La qualification, elle est individuellement accepté pour calculer le salaire. La compétence, et moi je le dis souvent, pour moi telle personne est incompétente et vice versa. Je l'avais dit à un député maire à l'époque. Mais voilà, la compétence c'est très subjectif. La qualification c'est réel.
Bon, c'est-à-dire qu'avec ce système qui oblige les gens à prendre n'importe quel emploi, ils seront employés en dehors de leur qualification, donc sur une grille de salaire qui ne se... Ça fait voler en éclats le système de la grille de salaire.
C'est ce qui se passe avec certaines formations dans certaines branches où les salariés sortent avec, j'ai plus le terme en tête, mais ça existe dans la métallurgie, où il y a des formations sur un métier, je dis bien, ou voire même une seule tâche, qui n'est pas reconnue par la grille. Donc c'est hors grille. Demain, a priori, alors il pourrait pas être en dessous du SMIC, hein, parce que ça c'est... Mais jamais évolué, parce que c'est pas reconnu au niveau de la négociation, et c'est pas reconnu au niveau de la convention collective. Donc, toutes ces choses-là font que l'assurance chômage, c'est un moulin à broyer, hein, on va le dire clairement.
C'est-à-dire, c'est un système qui, non seulement a des conséquences sur l'indemnisation du chômage, mais en fait a des conséquences sur l'ensemble de la du salariat, en quelque sorte.
Alors oui, alors ça,
indirectement
c'est quand même un sacré coin qui est mis dans toutes les conventions collectives, le code du travail et les statuts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est encore sur des contrats pour le retour à l'emploi, on est encore sur des contrats qui sont dans l'univers du collectif, puisque convention collective, ce que je disais, code du travail, tout ça. Demain, on n'est pas à l'abri que le contrat soit vraiment individualisé, pas spécialement un contrat de travail, un contrat commercial style Uber, hein, ou d'autres, des contrats de mission ou un tas de choses, qui font que les garanties collectives volent en éclats. Et là, nous, la CGT, on peut pas être d'accord avec ça. Et en plus de ça, ça a des conséquences sur la vie sociale. Ils vont être obligés d'accepter des travails à je ne sais combien de kilomètres, dans n'importe quelles conditions. Donc, vie sociale, vie au travail vont forcément en prendre un sacré coup.
Non, mais j'imagine que je suis chômeur, on m'oblige à prendre un travail à temps partiel à 40 km de chez moi. Quand j'aurai payé l'essence, il me restera combien finalement ?
Bah, pas grand chose, surtout au prix où c'est actuellement. Même si c'était moins cher.
Donc c'est quelque chose qui va casser complètement la vie d'un certain nombre de gens.
Ah oui, parce qu'en
plus... Ils vont travailler, mais ils vont travailler en étant non seulement pauvres, mais carrément misérables.
C'est ce qu'on dit. Le pire, c'est les travailleurs à temps partiel. Mais les salaires sont tellement bas en général que maintenant, travailler va devenir un luxe, quoi. Enfin, faut le dire clairement, ça va être... l'essence est un produit de luxe maintenant, donc aller au travail devient une contrainte alors financière et en plus sociale dans ces conditions-là, qui va être insupportable et qui va engendrer des situations catastrophiques. Et il ne faut pas croire que les gens veulent rester au chômage, c'est faux. Enfin bon, je ne sais pas, il n'y a que les bien-pensants qui peuvent parler de ça, et puis certains qui ne connaissent pas le monde du travail, mais... Tous les chômeurs qu'on connaît, ils veulent tous retrouver du boulot, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà. On ne peut pas leur imposer des conditions qui sont inacceptables pour eux.
Indignes, finalement.
Ben, ce serait quand même dommage qu'au XXIe siècle, on tombe dans des conditions dignes du XIXe, quoi. Donc, parce que c'est le cas. Il y aura obligation, et nous, on le dit souvent, les salariés se vendent. Le patronat achète. Voilà, on est sur des biens, on n'est plus sur des personnes, on est sur des biens. Et c'est contraire à toute la sociologie du travail qui a pu être mise en place. Mais par contre, c'est le patronat, on les connaît tous.
C'est bien ce que disait un jour un patron, il disait, moi, ce que j'ai besoin de tant d'heures de travail de tel niveau, eh ben, j'achète ces heures de travail, le reste, ça ne me regarde pas.
Parce que, ouais,
ça, c'est le 19e siècle. Hein.
On ne paye plus la force de travail qui est effectuée. On paye un individu, enfin on paye, oui, on achète à un individu le fait qu'il sache faire, qu'il ait des compétences, voilà, point. Pas qu'il ait eu, à un moment ou à un autre de sa vie, des formations, d'autres formations, si de la formation professionnelle en plus, non. On est là sur, et ben voilà, toi tu sais faire du pain, va donc travailler dans une boulangerie, même si t'as pas la qualification. Et pas de qualification, encore une fois, pas de salaire, pas d'assurance chômage, et pas de retraite. Voilà, faut aller jusqu'au bout.
Oui, le bout de cette logique-là, c'est effectivement, on vend sa force de travail et pour le reste, on se débrouille, on assure sa retraite, on assure personnellement sa retraite, on assure personnellement ses soins, etc. Et on démolit complètement toutes les protections sociales.
Et on n'est pas à l'abri de voir naître, alors peut-être que c'est déjà le cas, mais moi je n'ai pas vu, des assurances privées, comme vous assurez votre voiture, vous allez assurer le risque chômage individuellement, alors que là, il est assuré collectivement. Donc, je suppose qu'il y en a qui l'ont déjà théorisé, ou c'est peut-être déjà fait, mais je ne suis pas au courant, mais on a toute cette société individuelle qui est mise en place, et encore une fois, là, c'est la même chose. On a plus de, ils ne veulent plus de garantie collective, ils ne veulent plus d'assurance collective, parce que l'assurance chômage, ça s'appelle l'assurance chômage. Donc, c'est une assurance contre le chômage. Donc une assurance contre le chômage collectif, elle peut passer dans une assurance chômage privée. C'est pas un peu comme la santé actuellement avec les complémentaires des engagements de la sécurité sociale. Pas du fait de la sécurité sociale, du fait des politiques. Et derrière ça, obligation, parce que c'est obligé, pour pouvoir se faire soigner, c'est une obligation d'avoir une complémentaire quelle qu'elle soit. Et alors, évidemment, le but ultime, c'est que tout passe dans les mains du privé, les grands groupes financiers et assurantiels, qui sont déjà prêts à, je suppose, à gérer l'assurance chômage. Hein, c'est sûrement...
Vous voulez vous assurer contre le chômage, on va vous assurer.
Voilà.
Vous payez votre cotisation, on vous assure contre le chômage.
Voilà.
La santé, c'est pas compliqué. Vous assurez votre carcasse comme vous assurez votre maison, vous assurez votre bagnole. C'est pas plus compliqué que ça. Donc. Et on est l'individu isolé face au patronat, face aux assurances, ouais. Face aux grands groupes. Le rapport de force n'est pas le même, évidemment.
Non, le rapport de force n'est pas le même. Avec ces métiers dits sous tension, un terme qu'on réfute, nous, métiers sous tension, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des pénuries de main-d'œuvre parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, parce que les salaires sont encore moins bons et que les garanties collectives, là aussi, ne sont pas terribles. Donc, il y a des salariés qui ne veulent pas de cette situation-là. Et puis, à tout à chacun, on a le droit de ne pas vouloir travailler. Voilà, dans certaines conditions et à certains.
Oui, puis il y a des trucs qui sont quand même. Moi, j'ai vu une annonce de travail dans une boulangerie. On lui demande, bon, ben voilà, 15 heures par semaine, de 6 heures du matin à 9 heures, pour faire des livraisons. Bon, ben, ça fait 15 heures par semaine.
Mais comment oui ?
Qui peut accepter de vivre avec la rémunération de 15 heures par semaine, c'est pas possible. Alors, c'est qu'il a un autre boulot à côté, mais là, on va vers le système américain où on cumule tout un tas de petits boulots et on bosse 60 heures par semaine et on n'arrive pas à joindre les deux boulots à la fin, quoi.
C'est ça hein, qui veulent. Hein, quand on dit qu'il n'y a plus des garanties collectives, le système américain et d'autres systèmes en sont la preuve du.
Ouais, l'Allemagne, c'est pas fameux non plus, maintenant.
On est vraiment dans ces pays-là, on est vraiment enfin les États-Unis surtout, de l'individualisme, et voilà, et la compétition, c'est la compétitivité entre individus, voilà comment c'est instauré, et nous, il faut qu'on refuse ça. C'est pour ça que le terme de compétence, il est à bannir. On a des savoirs, on a des savoir-faire.
Et surtout, des compétences reconnues par des diplômes et par des qualifications.
Et nous sont reconnues. Nous, c'est la qualification. Légalement. C'est la qualification, et encore une fois, la qualification, dans un cadre collectif et non pas dans un cadre individuel. Parce que la dérive est vite prise si on n'y fait pas attention. Oui, un contrat Uber, pourquoi pas, ça donne du boulot aux gens. Oui, mais un contrat Uber, ça reste un contrat Uber, même si la justice reconnaît qu'il y a un contrat de travail. Il y a d'autres formes de travail qui vont être mises en place. Ils n'arrêtent pas de réfléchir, le camp d'en face. Hein. Le camp d'en face, ils essayent de voir comment on peut encore plus individualiser les situations. Ce qui fait que le rapport de force est très compliqué, puisque vous avez dans une même boîte, vous pouvez avoir des intérimaires, des CDD, des CDI, des contrats de mission, des CDI intérimaires, du Uber. Voilà, donc avec tout. Et puis ça peut s'exporter dans toutes les branches. C'est déjà le cas dans la métallurgie où vous avez déjà X contrats de travail. Et si on n'y fait pas gaffe, on va se retrouver avec des salariés qui vont continuer, parce que souvent de fois c'est déjà bien parti, qui vont continuer à se mettre en opposition les uns aux autres sur, en réalité, les mêmes problématiques, mais pas comprises de la même manière. Et donc, ben voilà, on se met, plutôt que d'aller taper sur le taulier, on préfère taper sur le collègue d'à côté, parce que lui, il a peut-être une petite différence dans son contrat qui est un peu différent, et puis voilà.
Donc, ça, c'est une vieille tactique, hein, diviser pour gagner.
Ouais, mais là, l'institution en rajoute une couche. Ouais. Le patronat, oui, diviser pour mieux gagner, c'est pas un problème. Mais là, l'institution, ouais. Alors assurance chômage, mais le reste aussi, ouais. Tout ce qui peut en découler, vient en rajouter. On remet une couche.
C'est-à-dire qu'en fait, on part de l'assurance chômage et on s'aperçoit qu'on va vers un modèle de société complètement basé sur l'individu, en compétition les uns vis-à-vis des autres, et soumis en fait au patronat, au groupe, etc.
Ben c'est comme ça qu'on l'analyse, nous. Nous, on le voit comme un ensemble. Là, il y a l'assurance chômage, mais qui est en lien aussi avec les salaires, forcément, qui est en lien avec les conditions de travail, parce que vous avez des gens, alors là, on parle de l'assurance chômage, mais on ne parle pas non plus des accidents du travail ou des maladies professionnelles qui sont de plus en plus courantes. D'ailleurs, à un moment ou à un autre, il faudra faire le bilan des conséquences des conditions de travail à une petite échelle, mais aussi à une plus grande échelle. Et on voit bien que ça a des répercussions surtout sur la vie sociale, sur les garanties collectives, sur, il faudrait qu'on en reparle, mais sur les retraites.
Oui, ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler.
Puisque on a écrit en disant, faut surtout pas croire que Macron a enterré tout ce qu'il nous a dit, faut pas rêver.
Mais même s'il n'est pas réélu, un autre président de droite mettra en place.
Ou pas spécialement de droite.
On se disait de gauche.
Mais c'est vraiment un. un autre modèle social qui sont en train de mettre en place. Et alors ça a commencé déjà depuis quand même quelques chefs d'État et quelques décennies.
Ça avait commencé avec Reagan et Thatcher. Et puis,
mais Macron a mis un sérieux coup. Et quand il se dit progressiste et qu'il transforme la société, alors oui, il fait progresser son camp, ça c'est clair, hein, il le fait progresser, le camp patronal et le capital. Mais il change la société, oui, parce qu'il faut qu'on fasse quand même très attention. Ils ont oublié de ne pas réfléchir. Ils réfléchissent, ils sont au service, hein, ils sont au service du capital, mais ils réfléchissent pour leur classe. Et ils ont une cohérence, si on regarde bien, depuis quand même quelques années, une cohérence et une régularité dans le temps où ils voient à court, moyen et long terme. Mais systématiquement, c'est aux dépens des travailleurs. C'est aux dépens des retraités, ouais. C'est aux dépens des chômeurs, c'est aux dépens de la jeunesse. Donc,
il y en a un qui l'a dit, hein, si on ne me rappelle plus son nom, il faut, et en 2007 je crois, il faut
Kessler.
Kessler, il faut détruire systématiquement ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance.
Puis ils y sont.
Eh bien, ils sont en train de le démolir. Nous de ne pas nous laisser faire.
À nous de.
Moi, j'ai... Sinon, ils le feront.
Moi, j'ai toujours dit. Macron et puis les autres nous disent alors on est en guerre contre le chômage, on est en guerre contre la pauvreté, on est en guerre contre le climat, on est en guerre, là c'est la guerre sanitaire, il y a un conseil de guerre d'ailleurs hein, qui se réunit tous les mercredis. Alors si on est en guerre, nous on résiste, nous sommes les résistants de ce qu'ils veulent nous mettre, de ce qu'ils veulent nous mettre en place. Donc la résistance, oui, alors ça s'organise, ça se construit par les forces, ça se construit idéologiquement et politiquement dans le bon sens du terme pour nous le syndical. Donc voilà, voilà un peu sur quoi.
Eh ben voilà, eh ben écoute, merci et puis.
Merci à toi.
On aura sûrement l'occasion de se retrouver.
Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se met plein les papines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Je ne dessinerai pas l'homme et son agonie, l'enfant des premiers pas qui gèle dans son nid. Je ne parlerai pas du soldat qui a peur d'échanger une jambe contre une croix d'honneur. Du vieillard rejeté aux poubelles de la faim, je n'en parlerai pas, mieux vaut ce petit refrain. Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se met plein les papines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Je ne serai pas l'empêcheur de déjeuner en rond, à louanger la sueur qui brûle sur les fronts. Je ne parlerai pas de l'ouvrier qui pleure la perte de ses doigts morts au champ du labeur. De la jeune fille fanée avant d'avoir aimé, je n'en parlerai pas, il vaut mieux glorifier. Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros bonbons sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se met plein les babines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, 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 et vive le chat.
Vous écoutez l'association Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9.
Bien, Jeanne-Marie André, vous allez nous présenter la dernière publication du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
La COP 26 va s'ouvrir le 31 de ce mois à Glasgow, en Écosse.
Rappelons que les COP rassemblent les représentants de tous les pays du monde autour de la question du changement climatique. Question cruciale qui concerne chaque habitant de la planète.
Le GIEC vient de sortir la première partie de son nouveau rapport, le sixième, depuis sa création en 1988. On en retiendra surtout le résumé à l'intention des décideurs, parce que le vrai rapport, c'est un énorme pavé. Et aussi le communiqué de presse publié le 9 août à ce sujet. Alors, c'est seulement le rapport du groupe de travail numéro 1 chargé des éléments scientifiques de l'évolution du climat, les groupes de travail 2 qui s'occupent des conséquences et de l'adaptation au changement climatique, et le groupe 3 qui s'intéresse à l'atténuation du changement climatique, tout ce qu'il faut faire pour qu'il n'augmente pas, ben, ils publieront leur rapport dans le courant de 2022. Hein.
Ben oui, mais il faudrait peut-être dire quelques mots du GIEC, non ?
Oui, alors ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, voilà son titre exact, est un organe des Nations Unies chargé de rassembler et d'évaluer les travaux scientifiques consacrés au changement climatique. Donc il a été, on l'a dit, créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et aussi par l'Organisation météorologique mondiale. Il a pour mission de fournir à intervalles réguliers des évaluations scientifiques concernant les changements climatiques, leurs conséquences et leurs risques, et de présenter des solutions pour atténuer ce changement. Des milliers de personnes contribuent aux travaux du GIEC dans le monde entier. La méthode employée par les 234 auteurs représentant 66 pays et les 517 auteurs collaborateurs pour simplement ce premier groupe de travail a consisté à lire, évaluer, commenter des milliers de travaux scientifiques. Plus de 14 000 références sont citées, c'est-à-dire qu'elles ont été prises en compte pour l'élaboration du rapport.
Oui, résumé pour les décideurs. Tu dis, décideurs, ce mot-là me gêne un peu. Dans une démocratie digne de ce nom, il ne devrait pas y avoir qu'un seul décideur, le suffrage universel. Tous les autres décidant en son nom et sous son contrôle, non ?
Ben, raison de plus pour le faire connaître. Alors, ce résumé fait quand même 61 pages et il est divisé en 4 chapitres. Premier chapitre, A, chapitre A, la situation climatique actuelle. Chapitre B, les futurs climatiques possibles. Chapitre C, information climatique sur l'évolution des risques et l'adaptation régionale. Chapitre D, limiter le changement climatique futur. Il est rédigé selon les critères scientifiques les plus rigoureux. Beaucoup de données chiffrées, de tableaux, de graphiques, de cartes. Un lecteur non averti sera surpris de ce que les éléments clés de ce rapport soient formulés comme des états de fait ou soient parfois associés à un niveau de fiabilité forte, fiabilité moyenne, fiabilité faible, selon ce que l'état des recherches permet d'affirmer. C'est cette façon de procéder tout à fait normale et courante dans les sciences. Hein. Ceci dit, même quelque chose qui, d'après les études scientifiques, a une fiabilité faible, c'est-à-dire peu de chances de se produire, si c'est catastrophique, il faut quand même en tenir compte sur le plan politique.
Ah oui, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ?
Ah ben, si on ne veut pas lire les 61 pages de ce résumé pour les décideurs, on lira avec beaucoup d'intérêt le communiqué de presse publié le 9 août par le GIEC et qui reprend les conclusions de façon claire, rapide et accessible, accessible à absolument tout le monde, même sans le moindre culture scientifique. Il est court, hein, 2 pages, et se lit très facilement. On le trouve sur Internet en tapant GIEC. Communiqué 9 août. GIEC, communiqué 9 août.
Oui, un résumé, du résumé, en quelque sorte, non ?
Ben oui, qui va à l'essentiel, mais sans tout l'appareil scientifique qui lui sert de base. Et là, les scientifiques vont droit au but sans faire de détour. Hein. Dans le titre d'abord. Changement climatique généralisé et rapide, d'intensité croissante. Madame Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, déclare... Il est clair depuis des décennies que le climat de la Terre change et l'incidence des activités humaines sur le système climatique est incontestable.
Là, les scientifiques mettent les pieds dans le plat et ne s'embarrassent plus des lourdeurs méthodologiques.
Hein. Oui, le rapport montre que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont élevé les températures d'environ 1,1 degré depuis la période 1850-1900. Et il conclut que la température mondiale en moyenne sur les 20 prochaines années devrait atteindre ou franchir le seuil des 1,5 degré.
Oui, mais cette augmentation de la température, elle a elle-même des conséquences.
Ben oui, le changement climatique intensifie le cycle de l'eau. Cela apporte des pluies plus intenses avec les inondations qui les accompagnent, mais aussi, même si ça peut paraître paradoxal, des sécheresses plus intenses. Il est probable que les précipitations augmenteront aux hautes latitudes, hein, c'est-à-dire vers le nord, latitude proche du pôle, alors qu'une baisse est projetée dans une grande partie des régions subtropicales, les déserts, le Sahel, le Moyen-Orient, etc.
Oui, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer pour des populations déjà en grande difficulté.
Oui, et les zones côtières seront confrontées à l'élévation du niveau de la mer, et ça tout au long du XXIe siècle et même après. La poursuite du réchauffement amplifiera la perte du manteau neigeux saisonnier, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, et la diminution des glaces de mer ou de la banquise arctique en été, donc la banquise dans l'océan glacial arctique. Il est possible que certains aspects du changement climatique soient accentués dans les villes, en particulier la chaleur. Pour la première fois, le sixième rapport offre une évaluation régionale poussée du changement climatique. On trouvera ces informations sur interactive-atlas.ipcc.ch. Il faudra, pour stabiliser le climat, procéder à des réductions fortes, rapides et soutenues des émissions de gaz à effet de serre et ramener à zéro les émissions nettes de CO2, a déclaré M. Chai, coprésident du GIEC.
Ce communiqué qui tire l'essentiel du rapport aux décideurs, il faut le lire. Car après tout, les décideurs, c'est nous.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leur. La la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la.
Bon, quelles sont les actions en cours ou qui sont prévues pour les jours et les semaines qui viennent, Louis-Claude ?
Eh bien, c'est assez chargé là, pour la période qui vient. Alors déjà, demain, ou aujourd'hui, puisque ça sera passé, donc le samedi 23 octobre, à partir de 10h, le collectif Unis pour le Climat organise un rassemblement festif au bas de la place de la Nation, devant l'entrée du marché de la Halle, pour, à une semaine de l'ouverture de la COP26, dont on vient de parler, sur le changement climatique, alerter sur la gravité de la situation et l'urgence d'y faire face, tout en pointant les fausses solutions qui ne permettront pas de lutter efficacement contre le réchauffement de la planète et ses conséquences. Deux semaines plus tard, le 6 novembre, à partir de 15h, ce sera toujours sur le même sujet, une déambulation dans les rues de Bourges. Rendez-vous en bas de la rue d'Oron. Le 11 novembre, ensuite à Vierzon, la cérémonie pacifiste habituelle, organisée en collaboration par la mairie et puis le mouvement de la paix et puis plein d'autres aussi, hein, je ne vais pas en faire la liste, ça se déroule devant le monument aux morts de Vierzon, monument qui est classé monument historique. C'est à 15h le 11 novembre. Et puis il y aura peut-être ensuite une animation. L'animation sera faite de toute façon par la LDH, la section locale. Alors ensuite, dans la semaine du 22 au 27 novembre, le collectif Monde Solidaire du Cher, qui regroupe 17 associations ou mouvements, dont Attaque 18 fait partie, animera le Festival des Solidarités, Festisol, ancienne semaine de la solidarité. Voilà, et puis alors une bonne nouvelle, c'est la renaissance, si on peut dire, du Café Repère de Vierzon. Déjà mardi dernier, il y a eu une séance avec Gérard Noiriel, mais maintenant deux autres sont annoncées. Le 2 novembre, à 19h, à l'ancienne auberge de jeunesse de Vierzon, Jean Sève viendra parler de son livre « Capital Exit ou la catastrophe ». Et puis mardi 14 décembre, ça nous met un peu plus loin ça, Daniel Linard animera la soirée autour des conditions du travail via le management, outil de destruction des individus et de la solidarité collective. Voilà.
Oui, pour ce qui est du Festival des Solidarités, il faudrait citer quand même que le lundi 22 novembre à 18h30, une conférence de Marine Calmet, présidente du programme Will Legal Justice, qui parlera de devenir gardienne et gardien de la nature. Hein, c'est à l'amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle et c'est à l'initiative d'Attaque 18. Le jeudi 25 novembre à 14h, les ateliers du conseil départemental, l'eau et le développement durable à l'IUT de Bourges. Le jeudi 25 novembre, toujours à 20h30, rencontre autour du film Made in Bangladesh. Dans quelles conditions nos vêtements sont-ils fabriqués au Bangladesh? C'est au cinéma de la Maison de la Culture. Et ensuite, le samedi 27 novembre, de 14h à 19h, alors là, tout un tas d'animations au 22 rue d'Oron, rue Henri Sellier à Bourges, hein, avec des espaces interactifs, des jeux, des expos et un concert à 17h de Ziaco. Voilà. C'est la fin de notre émission. Nous nous retrouverons le vendredi 26 novembre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 rue Gambon-Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission Brassens dans Le Temps Passé, Montand dans Le Chat de la Voisine et enfin Moustaki dans Il y avait un jardin.
Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir. Au revoir.